Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, le PPRD, le parti de Joseph Kabila, dont les autorités ont suspendu les activités, répond aux accusations du pouvoir. Le gouvernement dénonce l'activisme de l'ancien président dans la guerre d'agression rwandaise et le silence coupable de son parti. Le PPRD se défend dans une longue correspondance qu'il a adressée hier au ministre. Le coup d'envoi aujourd'hui des célébrations du 50e anniversaire de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Une cérémonie est en cours à Accra, au Ghana, sans représentants des pays de l'Alliance des États du Sahel, qui avait pourtant été invité par le président John Dramani Mahama. Les obsèques du pape François, elles auront lieu samedi matin, puis ce sera le temps du conclave pour désigner son successeur. 135 cardinaux électeurs y prendront part. Un collège cardinalis où le pape François aura beaucoup élargi la place de l'Afrique, sensible à donner une voix plus forte au continent au sein de l'Église. Et l'une des voix de l'Afrique au sein du conclave sera le cardinal de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapala Inga, qui est notre invité. Avant de développer ses titres, la disparition de l'un des grands philosophes du continent, Valentin-Yves Moudimbe, est décédé tôt ce matin à l'âge de 83 ans en Caroline du Nord aux États-Unis où il vivait. Originaire du Congo Kinshasa, il avait signé L'invention de l'Afrique, Alexandra Brangeon, un incontournable des études africaines.
Auteur de romans, de recueils de poésie, de mémoires, c'est surtout ses essais théoriques sur l'Afrique qui vont faire de Valentin-Yves Moudimbe une grande figure du monde littéraire et linguistique. Né le 8 décembre 1941 à Likassi, dans la province du Haut-Katanga, il reçoit une éducation classique chez les moines bénédictins jusqu'à y faire son noviciat. À 21 ans, il renonce à la vie religieuse et poursuit ses études de philosophie à Louvain en Belgique. Enseignant à l'université de Lubumbashi, il devient très actif dans les revues publiées alors au Congo. Fin des années 70, il quitte le Zaïre de Mobutu pour un long exil qui le conduit en Europe puis aux États-Unis où il enseigne notamment à l'université de Stanford. Auteur d'une quarantaine d'essais, il déconstruit le regard de l'Occident sur l'Afrique et forge le concept de bibliothèque coloniale, c'est-à-dire comment les discours d'explorateurs, d'anthropologues et de missionnaires ont façonné l'image du continent. Il avait alors à cœur de constituer une véritable bibliothèque africaine, à savoir un savoir africain sur l'Afrique. L'un de ses ouvrages phares, L'invention de l'Afrique, paru il y a plus de 30 ans en anglais, devenu un classique des études africaines dans les universités américaines, a été traduit en français l'année dernière.
En République démocratique du Congo, le PPRD, le parti de Joseph Kabila, répond aux accusations formulées par le pouvoir. Les autorités ont décidé de suspendre ses activités sur tout le territoire. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le justifiant parce qu'il a qualifié d'attitude ambiguë de l'ancien président, à qui il reproche notamment, je cite, « son choix délibéré de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de l'ennemi ». Réponse donc hier soir du PPRD, Passion Ligaudi, dans une longue correspondance adressée au ministère de l'Intérieur, le parti rejette toutes les accusations.
Le PPRD affirme avoir adopté, je cite, une posture de résistance non violente depuis quelques années. Le parti explique qu'il est en cours de restructuration, objectif, participer au débat politique et à la conquête démocratique du pouvoir. Concernant Joseph Kabila, accusé par les autorités d'avoir transité par Goma, le PPRD répond, il est établi d'une autorité publique que le président honoraire Joseph Kabila n'a pas séjourné à Goma la semaine dernière. Fin de citation. Mais cette version est contestée. Le ministre de l'Intérieur et des responsables de l'AFCM-23 assurent, eux, que Joseph Kabila était bien à Goma. D'autres responsables politiques pointent aussi un tweet publié il y a 4 jours par Kikayabine Karoubi, un proche collaborateur de l'ancien président. Il écrivait que Joseph Kabila est toute sa vie à la quête de la paix et annonçait qu'il prononcerait un discours depuis Goma. Ce discours, pour l'instant, n'a pas été diffusé. Même si la présence de Joseph Kabila à Goma venait à être confirmée, le parti estime que cela ne permet pas de conclure à une quelconque complicité avec un groupe rebelle. Le PPRD demande au ministre de rapporter sa décision. Il parle d'abus de pouvoir.
Et pendant ce temps, à Doha, les discussions entre les représentants du gouvernement congolais et ceux du mouvement armé AFCM-23 se heurtent à de nouveaux blocages.
Le mouvement armé FCM-23 estime que les poursuites judiciaires annoncées par Kinshasa contre l'ancien président Joseph Kabila compromettent le climat de confiance nécessaire aux négociations en cours à Doha. Pour les représentants du groupe politico-militaire, il s'agit d'un signal négatif envoyé par le pouvoir congolais alors que des gestes d'apaisement sont attendus de part et d'autre. Mais ce n'est pas le seul point de blocage. Un autre différend concerne la libération de 5 personnes par les autorités congolaises comme RFI l'avait annoncé. Selon Kinshasa, il s'agissait là d'un geste de bonne foi, mais en réponse au retrait du M23 à Doha, Likale Centre. Problème, le M23 affirme que ces personnes ne figurent pas sur la liste qu'il avait remise aux médiateurs, ce qui alimente davantage la méfiance.
Les obsèques du pape François auront lieu, on l'a appris ce matin, samedi. À l'issue d'une messe, son cercueil sera transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome, où le pape sera enterré conformément à ses volontés. Le président américain Donald Trump et ses homologues français Emmanuel Macron ou ukrainien Volodymyr Zelensky ont d'ores et déjà annoncé leur venue à Rome. Un conclave sera ensuite organisé pour désigner le successeur de François. Sa date n'a pas encore été annoncée, mais il doit débuter entre le 15e et le 20e jour du décès du pape. 135 cardinaux électeurs y prendront part. Un collège cardinalis où le pape François aura beaucoup élargi la place de l'Afrique, sensible à donner une voix plus forte au continent au sein de l'Église, Éric Sonnanc.
Le pape François et l'Afrique, c'est d'abord une affaire de cardinaux. Durant son pontificat, François aura créé pas moins de 17 cardinaux sur le continent, la plupart électeurs en cas de conclave, c'est-à-dire âgés de moins de 80 ans. Fort de ses voyages sur le continent, le pape argentin a pu nouer des amitiés comme avec les cardinaux Nzapalenga à Bangui ou Ambongo en République démocratique du Congo, des princes de l'Église qui se retrouvent sur la ligne pastorale, ouverts à la réconciliation dans des sociétés souvent blessées par la guerre. Mais certaines de ses voix africaines du Sacré Collège n'ont pas pour autant toujours été alignées sur les options du pape défunt, en particulier en matière sociétale. En témoigne, en décembre 2023, la lettre de la majorité des églises du continent africain se désolidarisant de la déclaration Fiducia Supplicans du dicastère pour la doctrine de la foi à Rome, autorisant la bénédiction des couples homosexuels, et des réserves qui seront personnellement apportées au pape par le cardinal Obongo, à l'inverse d'autres prélats du continent comme le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger. Une autre figure enfin a pendant de longues années incarné l'opposition à François, celle du cardinal guinéen Robert Sarah, membre de la curie et proche des milieux traditionnalistes. Éric Sénanc, Rome, RFI.
La place de l'Afrique dans le collège des cardinaux électeurs a donc été élargie. Pour autant, un pape africain pourrait-il être élu et succéder à François ? Sur le continent, l'idée séduit beaucoup de fidèles catholiques. C'est le cas notamment à Yaoundé, comme a pu le constater le correspondant de RFI, Polycarpe Somba.
Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, la question d'un pape africain après le décès du pape François s'est tout de suite invitée au débat et l'idée à ses partisans.
Si on peut avoir un pape noir, ça sera une très grande fierté pour nous.
Naturellement, ce serait un honneur et un plaisir d'avoir aussi un pape africain, puisqu'on n'en a jamais eu.
Pour l'abbé Aurélien Béat, il n'y a pas à focaliser sur la race, le message de l'Église étant universel.
Notre souhait, c'est d'avoir un Saint-Père, un pontife qui relie et qui continue la mission d'un apostolique ici dans le monde et qu'il rassemble ses brebis, qu'il soit blanc ou noir. Pour nous, l'essentiel, c'est d'abord d'être un pasteur selon le cœur de Dieu.
Sur les idées progressistes que défendait le pape François, à l'exemple de la bénédiction des couples homosexuels, certains des fidèles suggèrent une mauvaise compréhension de la position du pape et postulent sur le principe du dynamisme de l'Église qu'il ne peut y avoir de retour en arrière.
Nous n'avons pas bien compris le pape. Le pape a voulu dire que chaque personne d'entre nous a une valeur devant Dieu, quelle qu'en soit sa faiblesse.
L'Église d'Afrique a été claire là-dessus. Et le pape a été clair dans sa prise de position. Il a dit qu'il faut ouvrir une porte de conversion à ceux qui font un pas vers l'Église. Nous disons que l'Église est dynamique, l'Église est en marche. Je pense que ce qui a déjà été traité par le passé ne peut que continuer.
Ce qui est certain, la fumée blanche sera particulièrement scrutée ici dans les prochains jours. Pour les Carpe Somba Yaoundé, RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le cardinal de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, est notre invité. La CEDEAO a 50 ans et le lancement officiel des célébrations qui doit durer toute l'année dans les pays membres a lieu aujourd'hui à Accra, au Ghana, où on vous retrouve, Victor Cariou. Une cérémonie se déroule en ce moment même au Centre international d'Accra.
Oui, tout à fait. Longue vie à la CEDEAO et à la solidarité ouest-africaine. C'est ce que vient de déclarer à l'instant le président ghanéen John Dramani Mahama. Une cérémonie où plusieurs des 12 États membres de la CEDEAO sont représentés, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo par la biais de sa première ministre et surtout le Libéria avec la présence de son président Joseph Boakai, seul chef d'État à avoir fait le déplacement. Absence notamment remarquée du président du Nigeria et actuel président de la CEDEAO, Bola Tinubu. Il a néanmoins fait porter son message dans lequel il invite à réimaginer la CEDEAO comme une communauté pas seulement politique, mais aussi de peuple. Autre intervention notable, celle du président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Omar Touré. Dans sa prise de parole, il affirme que le temps est venu de certes célébrer, mais également recalibrer et repenser la communauté ouest-africaine. Il pointe notamment le besoin de se réconcilier avec l'Alliance des États du Sahel, les dirigeants du Mali, Burkina Faso et Niger, qui ne sont finalement pas venus à Accra. Malgré l'invitation lancée formellement par le président ghanéen John Dramani Mahama, une absence pour cause de délais trop courts et d'agenda chargé, m'a indiqué une source proche de la présidence.
Victor Cariou en direct d'Accra. Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité annonce qu'une tentative de déstabilisation vient d'être déjouée. Un assaut sur le palais présidentiel qui était prévu le 16 avril dernier. Cette nouvelle tentative serait l'œuvre d'officiers, de soldats déserteurs qui seraient désormais en fuite vers la Côte d'Ivoire, considéré comme leur centre d'opération, Lisa Fabian.
Tout est parti de l'interception de plusieurs communications entre un officier des forces armées burkinabé et des chefs terroristes, explique le ministre de la Sécurité. L'enquête a révélé un grand complot contre le Burkina Faso dans le but de semer le chaos total afin de placer le pays sous la tutelle d'une organisation internationale, souligne le ministre de la Sécurité. L'officier Abdraman Bari, en service au bataillon de la justice militaire, est accusé d'avoir fourni des informations sensibles aux terroristes, que ce soit sur les positions des forces de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie et des opérations militaires, afin d'accentuer les attaques en vue de susciter la révolte contre les autorités burkinabées. Un groupe de soldats devait lancer un assaut contre la présidence le mercredi 16 avril dernier, mais l'opération a été dénoncée par d'autres militaires et VDP, fait savoir le commissaire Mahamadou Sana. Plusieurs officiers ont été interpellés, mais d'autres sont en fuite vers la Côte d'Ivoire et le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, affirme maintenant le ministre burkinabé de la Sécurité.
Et contacté par RFI, les autorités ivoiriennes n'ont pour l'instant pas réagi à ces déclarations. En Guinée-Conakry, la junte au pouvoir mobilise en vue du référendum constitutionnel et des élections qui sont prévues pour la fin de l'année. Après Kankan, Kindia et Boké, ce sont les enseignants de Conakry qui a été réuni hier au Palais du Peuple, le siège du Parlement, pour écouter les appels au maintien au pouvoir du général Mamadi Doumbouya. Reportage Tanguy Billon.
Les enseignants, tous vêtus d'un t-shirt blanc à l'effigie de Mamadi Doumbouya, ont marché du pont 8 novembre à l'esplanade du Palais du Peuple pour apporter leur soutien au président de la transition. Ambiance festive. Abdulaziz a déjà en ligne de mire le référendum constitutionnel prévu pour le 21 septembre.
Nous allons voter le oui, particulièrement, parce que tout ce que le CNRD propose pour la Guinée, on ne peut pas dire tout, c'est rose, on ne peut pas le dire. Mais pour le moment, tout ce que le CNRD est en train de proposer pour la Guinée aujourd'hui, c'est bon pour nous les jeunes, c'est bon pour la jeunesse et c'est bon pour la République de Guinée.
Le Premier ministre Baouri appelle à la continuité.
La volonté du général Mamadi Doumbouya, c'est de faire en sorte que la Guinée change en profondeur, que les errements du passé ne reviennent plus. Que la fraternité soit une réalité. Depuis le 5 septembre 2021, il y a une ligne qui est claire, rassembler le peuple guinéen pour son développement, pour sa sécurité, pour la paix et pour une véritable conciliation.
La prochaine manifestation en faveur de Doumbouya aura lieu ce week-end à Mamou. Tanguy Billon, Conakry, RFI.
Et alors que le gouvernement guinéen a suspendu ou placé sous observation les principaux partis politiques et que leurs leaders sont en exil, l'archevêque de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, a profité hier de la messe de Pâques pour appeler les autorités de transition à organiser des élections inclusives. RFI, les midi 44 à Conakry.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, l'un des avocats du procès dit du complot contre l'État arrêté en Tunisie. Et puis nous parlerons en tennis. Le second tournoi Challenger de l'ATP a démarré hier à Abidjan. C'est l'équivalent de la deuxième division de tennis professionnel. La Côte d'Ivoire, justement, dans l'actualité africaine de ce mardi, 12 enfants et adolescents ont péri noyés hier soir après le chavirement de leur pirogue dans la lagune près d'Abidjan. Ils participaient à une sortie organisée par une église à l'occasion des fêtes de Pâques. Le bilan a été donné par le ministre des Sports et du Cadre de Vie qui s'est rendu sur les lieux de l'accident dans la nuit. En Tunisie, l'un des avocats du procès du complot contre l'État a été interpellé hier. Il avait dénoncé les conditions d'organisation de ce procès, au cours duquel Ouday Ibrahim, de très lourdes peines ont été prononcées à l'encontre d'une quarantaine de politiciens d'opposition, d'avocats et d'anciens ministres.
Ahmed Souab a été interpellé chez lui lundi matin à l'aube. Selon son fils qui a donné l'alerte, 10 hommes de la sécurité ont fait irruption chez lui. L'avocat a été conduit au pôle judiciaire antiterroriste avant d'être officiellement placé en garde à vue. La justice lui reproche ses critiques contre le verdict du procès dit du complot contre la sûreté de l'État.
Mandela disait « La personne libre devient esclave si elle se tait face à l'injustice. Notre peuple et la révolution nous ont donné la liberté et nous ne nous taisons pas face à l'injustice. L'injustice et l'humiliation que j'ai vues dans ce dossier sont sans précédent. »
L'avocat Ahmed Souab, samedi dernier, qui réagissait après le verdict. Pour rappel, le tribunal de première instance de Tunis a infligé de peines allant de 4 à 66 ans de prison à l'encontre d'une quarantaine de personnes de l'opposition, des hommes politiques, des avocats, des journalistes, des hommes d'affaires et d'anciens ministres. Les accusés ont été reconnus coupables de complot contre la sûreté de l'État et d'appartenir à un groupe terroriste.
Les sports, c'est la deuxième division du tennis professionnel. Le second tournoi Challenger de l'ATP a démarré hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'une des attractions de la semaine est Benoît Paire. Si le Français a perdu beaucoup de place au classement, l'ancien 18e mondial conserve sa popularité dans le monde du tennis, même en Côte d'Ivoire, où il joue pourtant pour la première fois. Reportage Molamine Sissavané.
Lors de son match perdu au premier tournoi, la grande partie du public était favorable à Benoît Paire. Ce challenger est une reprise pour le Français de 35 ans après 7 semaines de blessure.
Je suis très content d'être ici en Côte d'Ivoire. C'est la première fois pour moi. J'avais besoin de retrouver un peu la compétition, essayer de prendre du plaisir. C'est ce qui s'est passé sur le premier tournoi. Maintenant, c'est à moi de faire mieux sur le deuxième, essayer d'aller plus loin dans le tournoi et pourquoi pas gagner pour reprendre des points ATP et remonter un peu au classement.
Son premier point au classement international, Miko Kwame vient de le décrocher dans le double grâce à son succès avec Benoît Paire comme coéquipier. Le numéro 3 ivoirien de 21 ans.
C'est quelqu'un que j'ai regardé toute mon enfance, qui a joué les grands chelems, tous les grands tournois. C'est carrément une idole pour moi. Peu importe son classement aujourd'hui, ça reste Benoît Paire. C'était une expérience inimaginable. Et en plus de gagner avec lui en double mon premier point, franchement, c'était, je pense, le plus beau jour de ma vie.
Marie-Emmanuelle Nanou, jeune abidjanaise férue de tennis depuis l'enfance, ne manque aucun jour du tournoi. Surtout pas les matchs de Benoît Paire qu'elle suit même à l'entraînement.
Ah, ça fait vraiment plaisir de le voir jouer. J'espère qu'il va gagner et se qualifier pour la suite. Le but, c'est de faire une pancarte pour ce mardi. On lui dit qu'il a les supporters ici. Voilà. Allez, Benoît.
Entrée en liste de Benoît Paire ce mardi face à Ricardas Berankis, finaliste malheureux du premier tournoi ce dimanche. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Il est midi 49 à Abidjan. Anne Kantner, les grands titres de ce mardi 22 avril.
L'organisation des obsèques du pape François, vous en parliez tout à l'heure. Plusieurs dirigeants ont déjà annoncé qu'ils assisteraient à la cérémonie samedi matin. Comme le roi et la reine d'Espagne, les dirigeants français, britanniques, allemands et ukrainiens ou encore la présidente de la Commission européenne. L'armée israélienne a tué 2 personnes au Liban, dont un chef du groupe Jamaa Islamiyah, affilié au Hamas palestinien, allié au Hamas. La riposte des universités aux États-Unis, une dizaine, dont les prestigieuses Harvard, Princeton, Brown et Yale, publie une lettre dénonçant l'interférence politique de l'administration Trump, une ingérence gouvernementale sans précédent selon les signataires et ce alors que l'administration américaine est engagée dans un bras de fer avec Harvard, à qui elle a coupé de très nombreuses subventions. On y reviendra avec notre envoyé spécial dans une vingtaine de minutes dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Et puis le président français poursuit son séjour dans l'océan Indien. Il est aujourd'hui sur l'île de la Réunion, touché par une épidémie de chikungunya. Un habitant sur 9 pourrait avoir été contaminé. Emmanuel Macron a vanté ce matin la campagne de vaccination lancée au début du mois. 14h50 ici à Paris, c'est l'heure de l'invité d'Afrique Midi.
Oui, il est l'un des 135 cardinaux qui éliront le prochain pape d'ici 2 semaines à Rome. Monseigneur Dieudonné Nzapala Inga est archevêque de Bangui. Il a été créé cardinal en 2016, un an après la visite du pape François dans son pays, la Centrafrique. Que retient-il des 12 ans du pontificat de François? Redoute-t-il lors du prochain conclave des divisions entre cardinaux conservateurs et progressistes? Espère-t-il que les intérêts de l'Afrique y seront défendu. En ligne de Bangui, le cardinal Nzapala Inga répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Éminence, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre réaction après le décès du Saint-Père?
Aujourd'hui, je suis peiné. En même temps aussi, j'exprime la gratitude au Dieu unique qui rappelle à lui son serviteur, l'infatigable missionnaire, celui qui a été proche des pauvres et qui a exprimé ce qu'on appelle la miséricorde.
Le pape n'est allé que 5 fois en Afrique, mais il a tenu à aller dans votre pays. Pourquoi?
Parce que ce pays était présenté comme un pays où la religion divisait. On disait conflit entre musulmans et les chrétiens. Or, les leaders religieux, l'imam, le pasteur et moi-même, on s'était mis ensemble pour dire on met en place la plateforme pour travailler pour l'unité de ce pays. Et je crois que le pape a été attentif et quand nous l'avons rencontré à Rome avant sa venue en 2015, nous l'avons salué en l'invitant tous les 3. Et il a dit, pour la première fois dans l'histoire, ce sont les leaders religieux qui m'invitent. Rien que pour cela, je ferai le déplacement.
Alors, en décembre 2023, il a ouvert la voie aux bénédictions des couples homosexuels. Comment vous avez réagi à ce moment-là?
Mais je pense que l'Église d'Afrique a pris le chemin synodal et c'est ensemble, en communauté, pour ne pas dire en communion, que nous avons formulé la réponse qui a été soumise au Saint-Père. Quoi, l'Église d'Afrique a exprimé une sensibilité qui est à part. De par sa culture, sa tradition et son anthropologie, et nous voulons aussi garder l'anthropologie chrétienne.
Est-ce que vous avez craint un schisme à ce moment-là?
Moi, je pense qu'il n'y avait pas un schisme à voir, puisque nous avons travaillé ensemble et les choses étaient claires. Quand j'étais à Rome, quand on a présenté ce message, le pape aussi a accueilli et il a laissé ce courant s'exprimer. Et je crois que cette ouverture est à féliciter de la part du Saint-Père, qui tient compte aussi de plusieurs sensibilités au cœur de cette Église universelle.
Oui, c'est ça. Le pape a fait une clarification, hein?
Oui, le pape a fait une clarification et nous avons pris l'option en disant nous ne bénissons pas les couples mariés. Ça, c'est notre option. Et le pape aussi a expliqué qu'est-ce qu'il entendait en parlant de bénédiction. Ce n'était pas un sacrement. Et nous, l'Église d'Afrique, nous avons voulu éviter la confusion dans la tête des gens en disant que nous ne bénissons pas, mais plutôt nous allons bénir les couples sacramentels.
Est-ce qu'il a représenté pour un certain nombre d'autorités catholiques africaines une forme de décadence morale européenne?
Je pense que l'Occident a son parcours, qu'il ne me revient pas de juger, et l'Afrique a son parcours, et nous devons chacun, dans notre parcours, converger vers l'unique, ça veut dire Jésus-Christ qui est le Sauveur, mais il y a des dogmes qui nous guident et qui nous éclairent pour nous aider dans notre cheminement vers le salut.
Alors maintenant, évidemment, il va y avoir les obsèques où vous allez vous rendre, éminence. C'est dans quelques jours au Vatican. Et puis ensuite, il y aura le conclave pour élire son successeur. Et ce sera votre premier conclave.
Ça sera mon premier conclave, oui.
Certains disent qu'il y a un courant conservateur de plus en plus influent au sein de l'Église catholique. Est-ce que vous pensez qu'il se manifestera lors de ce conclave?
Moi, je ne suis pas souvent pour ces divisions courant conservateur, progressiste. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Église, nous avons des sensibilités, des manières de penser et autres. Il ne faut pas chercher à les opposer. Bien au contraire, tout cela contribue à l'évangélisation, à l'annonce de l'unique sauveur, ça veut dire Jésus-Christ. Alors donc, moi je pense que c'est de dehors qu'on arrive à cataloguer. Vous l'avez vu, pendant le synode, au mois d'octobre, on avait pronostiqué beaucoup de choses. Mais une fois qu'on rentre et qu'on se laisse éclairer par l'Esprit Saint, les choses changent, eh bien, l'Esprit guidera son Église.
Oui, mais tout de même, Monseigneur, les réformes du pape François ont provoqué une certaine hostilité dans les églises oui. d'Amérique du Nord et dans un certain nombre d'églises africaines. Est-ce que ces hostilités ne vont pas se manifester lors de l'élection de son successeur?
J'espère que non. Si nous nous retrouvons, c'est pour choisir celui qui aura le destin de l'Église universelle. C'est pas pour des intérêts régionaux, continentaux ou bien encore des intérêts personnels. On doit voir l'intérêt général, pour ne pas dire universel, c'est-à-dire l'intérêt de cette Église catholique.
Éminence, Monseigneur Dieudonné Zapalainga, je vous remercie.
Monseigneur Dieudonné Zapalainga, au micro de Christophe Boisbouvier, cet entretien est à retrouver sur nos applications et sur notre site internet. Rubrique invité, onglet grand invité Afrique. Le président français Emmanuel Macron en tournée dans l'océan Indien après Mayotte hier et la Réunion aujourd'hui. Il sera demain à Madagascar. En dehors des questions bilatérales et politiques, on parlera à l'occasion de cette visite sur la grande île énergie. Le secteur est sinistré à Madagascar avec des délestages de plus de 8 heures par jour, Claire Fage.
À Madagascar, il n'y a même plus assez de courant pour distribuer l'eau dans les bornes fontaines urbaines. Les manifestations se multiplient devant le siège de la compagnie publique d'électricité, la Djirama, une société qui absorbe 10% des revenus de l'État tant elle est mal gérée, observe Ketakandji Narafic, directrice exécutive de Publier ce que vous payez.
Les marchés publics et les contrats de production d'électricité sont souvent attribués via des procédures opaques. Je pense notamment au contrat Léonard conclu entre la Djirama et les loueurs de groupes électrogènes qui font fonctionner la plupart de ces installations et qui les facturent souvent à des prix exorbitants. Les fournisseurs de combustible, tout comme les loueurs de groupes, ont tout intérêt à ce que la crise perdure. Il y a aussi la falsification des paramètres de facturation de la Djirama, manque à gagner pour la compagnie elle-même.
Les barrages, même s'ils sont plus souvent à sec une partie de l'année, restent la piste principale pour augmenter l'accès des Malgaches au réseau. Il est un des plus faibles au monde. Mais en 20 ans, aucun projet majeur n'a pu voir le jour, souligne Ketakandji Narafic.
En 2004, ces barrages-là, notamment Voulbé et Saouf, étaient déjà inscrits dans les soi-disant priorités du gouvernement. Les raisons évoquées sont le retard dû à des problèmes de financement, de coordination et de gouvernance. Et je pense que c'est ce dernier point surtout qui prédomine, le manque de transparence dans les appels d'offres.
Le président Macron pourrait annoncer la relance du projet de barrage de Voulbé par la compagnie française EDF grâce à un prêt de l'Agence française de développement. Mais pour qu'il soit viable, il faudra que la Djirama soit en mesure de payer cette électricité, explique Lou Varinel. Elle représente la France dans le réseau francophone des régulateurs de l'énergie.
Quand vous financez un système de production, donc à savoir une centrale hydro ou une centrale photovoltaïque par exemple, vous allez avoir un bailleur, mais en fait, il y a un modèle économique qu'il faut répondre. Et là, Madagascar ne trouve pas encore le dessin, j'allais dire, financier et économique pour expliquer que, en fait, il y aura une rentabilité et que cette coopération ne sera pas que un projet qui va fonctionner pendant 5-6 ans et puis après qui va plus marcher parce que, justement, manque d'entretien, parce que les Malgaches n'auront pas su faire.
La réforme de la Djirama est donc un préalable au succès des projets énergétiques malgaches et elle est exigée par le Fonds monétaire international au lendemain d'une mission dans la Grande Île.
Mais c'est à Antananarive que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Thomas Yayani. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous dans un peu plus d'une minute, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques ou bien une demi-heure d'informations en full day si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou en portugais si vous nous écoutez d'Afrique lusophone. À tout de suite.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.
Actualité Santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Demain, la présence de substances dans les eaux usées liées à la consommation de médicaments fait l'objet de surveillance. Comment évaluer les risques sur l'environnement ? Jeudi, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde selon l'OMS. Le docteur Tembo Batili, oncologue, répond à vos questions.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.
Coola, 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 tropical.
Couleur tropicale, Claudie Ciard.
Ce mardi 22 avril, Couleur Tropicale est encore au cœur du FEMUA 17 qui a refermé ses portes. Couleur Tropicale donnera la parole à la jeunesse, à la génération consciente de Daloa et aux acteurs de la musique d'une ville hautement culturelle. Couleur Tropicale à Daloa, la deuxième étape de la tournée africaine des 30 ans de...
Couleur Tropicale avec Claudie Ciard.
Du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU.
RFI.